Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers amis. Alors, je commence, comme on le fait traditionnellement, par les remerciements de rigueur. Nous remercions, bien entendu, la librairie Mola de nous accueillir dans cette nouvelle salle. C'est une grande première. Nous remercions la CAF, l'Association Québec-Amérique francophone, et également, bien entendu, Dany Laferrière, qui nous fait l'honneur, je dis bien l'honneur, de venir ici à Bordeaux aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que Dany Laferrière est académicien, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Il est, il faut le dire, et ça c'est important, on sort de l'Académie nationale de Bordeaux, où tout a été dit, mais il faut quand même rappeler qu'il est le premier académicien d'origine haïtienne et québécois également, puisqu'il vit à Montréal. Et peut-être pas le premier américain, puisqu'il y a eu Julien Green auparavant. Julien Green.
Oui, Julien voilà. Green, mais on oublie souvent que Julien Green est né à Paris.
Voilà.
Hein, mais qui et puis, donc, on peut remonter peut-être par loin. Filiation, quelque part, trouver des traces d'ADN d'Alexandre Dumas-Fils.
On en reparlera, je pense, un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Et donc... Il a été élu, ce qui ne gâte rien pour nous, Bordelais, au fauteuil numéro 2, qui est le fauteuil de Montesquieu et d'Alexandre Dumas-Fils, effectivement, en remontant, ainsi que d'un autre Américain, dans le fond, qui est Hector Biancotti, dont vous avez fait, cher Dany, j'emploie le vous protocolaire, l'éloge à votre arrivée à l'Académie, comme on le fait traditionnellement.
Qu'a occupé Hector voilà. Biancotti, qui est né en Argentine d'origine piémontaise.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, l'histoire de Dany Laferrière, d'Haïti, de Montréal, etc., ça fait un petit moment que je la connais parce qu'on a eu plusieurs croisements dans d'autres vies, on va dire, plus anciennes, où nous étions plus jeunes, que ce soit Port-au-Prince d'ailleurs. Je suis arrivé en 75, vous êtes parti en 76. Dany a dû s'exiler à la suite de l'assassinat d'un de ses amis, qui s'appelait Gesner Raymond. Et à une époque, on faisait la guerre à l'intelligence, comme disait Roger Gaillard de la Société haïtienne d'histoire.
C'est une époque qui se poursuit. Hein.
Oui.
La guerre, un peu partout dans le monde, d'ailleurs. On a toujours été très dubitatif à propos de l'esprit.
Malheureusement. Et donc, Gesner a pu pratiquer un journalisme d'investigation qui lui a coûté la vie. C'était la grève des Simons d'Haïti, si je me souviens bien, de la famille Lambert. Voilà. Et donc, ensuite, nous nous sommes retrouvés assez régulièrement au Salon du Livre d'Outre-mer, à la rue Oudinot, dans les années 93. Ça a commencé 93, 94. Et puis, la dernière fois, c'était il y a 18 ans. À Rochefort, à la Corderie Royale, pour Balcon sur l'Atlantique, où étaient présents quelques personnes qui ont disparu, comme Mimi Barthélémy, Émile Olivier, mais nous avions aussi Anthony Phelps, d'autres écrivains haïtiens assez nombreux. Il y avait toute une délégation, une bonne douzaine, je crois, si je me souviens bien. Voilà. Un peu plus tôt, à l'Académie de Bordeaux, le président Ritz a évoqué l'époque de Montesquieu, a évoqué l'histoire de Bordeaux au XVIIIe siècle. Dany Laferrière a posé quelques questions. Alors, je vais essayer de lui dire pourquoi il était presque obligatoire. C'était un passage quasiment obligatoire, Bordeaux. Il y a des signes. Nos croisements, déjà, c'est un peu le legba qu'on trouve dans vos romans qui nous ouvre les portes pour des rencontres furtives. Aujourd'hui, on va avoir peut-être un peu plus de temps. On nous a dit 45 minutes, 50 minutes. Ensuite, le public pourra poser des questions. Et puis, nous passerons à la dédicace des livres qui se fera près de l'estrade, ici, sur cette table. Alors, ce qui est important quand même, ici, à Bordeaux, nous avons beaucoup de traces de ce passé historique qui liait la ville et la région aquitaine à Haïti, qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue, et j'apprécie, comme historien, que vous ayez employé le terme dominguois cet après-midi, cher Dany, à l'époque dominguoise. Je crois que nous sommes la seule ville au monde à avoir une rue du Petit Goave.
Je crois, oui. Je ne savais pas, moi, j'ignorais tout cela, mais,
alors,
mais je savais que quand j'étais à Petit Goave, j'entendais parler beaucoup de Bordeaux, Et je m'étonnais de cette présence constante de Bordeaux dans la mémoire des gens de la ville, la petite ville où j'ai passé mon enfance, à Petit-Gouave, et dans les années 60, et où j'ai eu une enfance, je dirais, lumineuse et merveilleuse, et au cœur même de la plus terrifiante dictature, celle de Papa Doc. Ce qui m'a étonné et que j'ai compris bien plus tard, que cette enfance a pu se faire dans des conditions aussi magiques, parce que j'ai été, d'une certaine manière, sous l'attention de quelques femmes, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, et qui m'ont protégé, qui ont m'ont entouré, et comme si j'étais au milieu d'un cercle de feu, me protégeant du monstre. De ce dictateur. Et ça m'a comme aiguisé l'esprit à chaque fois que je me sens heureux, je me demande et qui m'entoure. Et parce qu'il y a toujours quelqu'un qui prend le feu pour nous. Ça m'a rappelé d'ailleurs ce passage où Sénèque, à la mort de sa mère, et dit à peu près que c'est à la mort de ma mère que j'ai senti un grand vent froid dans mon dos. C'est là qu'il a compris qu'il y avait quelqu'un qui se plaçait entre lui et la porte du néant. Et donc, la personne qui recevait le froid à sa place étant disparue. Donc, chaque fois qu'on se croit heureux, on doit se dire qu'il y a quelqu'un qui prend tout le malheur pour nous à notre place. Et il n'y a pas de bonheur comme ça, et tout seul, sans aide.
Et ce petit Gouave, d'ailleurs, c'est vraiment... c'est une, j'allais dire une petite ville. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitants. Un petit Goa, plus de 100 000 habitants. J'ai été surpris de voir ce chiffre. Mais ça reste une ville de province d'Haïti. Et c'est très différent de la capitale où vous êtes né, Dani, Port-au-Prince, qui est une ville tentaculaire, assez monstrueuse. Plus de 2 millions d'habitants aujourd'hui, Port-au-Prince. Petit Goa, c'est quand même l'une des plus anciennes villes de la colonie française de Saint-Domingue à l'époque. Et c'est la ville des flibustiers. Elle a été fondée par Jean-Baptiste Ducasse, le Béarnais, qui était gouverneur de l'île de la Tortue. Et c'est une des raisons qui font encore que l'Aquitaine était très présente, certainement encore dans les mémoires très lointaines, les mémoires à long terme, comme dirait Brodel, au Petit Goave. Le Petit Goave, c'est une ville qui a eu ses heures de gloire avant Léogane, qui a été capitale ensuite, et avant Port-au-Prince. Et quant à Port-au-Prince, alors là naturellement, Dany Laferrière est né à Port-au-Prince. Il est né dans une ville qui a vu naître également le premier président fondateur de la première République noire du monde, Haïti. Et je veux parler d'Alexandre Pétion, Anne-Alexandre Sabès, dit Pétion, dont le père, qui est un fils de Bordelais, puisque son père était de Sainte-Croix, ici à Bordeaux.
Tout à fait. Je pense que c'est une bonne... Je reconnais là... une manière haïtienne, parce que nous, tout est haïtien, tout ce qui est bien. Shakespeare, haïtien. Einstein, haïtien. Et dès que vous présentez quelqu'un, il suffit que ce soit bien. Si c'est bien, c'est un haïtien. C'est un haïtien. Sidney Poitier, haïtien. Si c'est bien et noir, alors c'est doublement haïtien. Alors, je vous donne un conseil, pas besoin d'aller directement. Oui, tout à fait. Non, il y a un rapport, j'aime bien, parce que Jacques de Cona est historien, il cherche les traces, et c'est vrai, je m'étonnais de ce rapport, de la présence de Bordeaux et de l'Aquitaine comme ça dans cette petite ville. Quand vous dites petite ville, je voulais faire un contraste avec Port-au-Prince, puisque ce sont les deux jambes de ma sensibilité. Je crois que Petit Goave m'a appris l'immobilité, pour le prince, l'agitation. Et dans mon travail d'écrivain, ces deux mouvements sont toujours mouvements. L'immobilité est mouvement aussi, puisque précisément, c'est l'indication qui a mouvement, que d'être immobile. Et l'immobilité, c'est ma grand-mère, c'est cette dame qui est toujours assise sur sa petite galerie en train de boire du café. C'est la ville assoupie sous le soleil de midi, tout à fait. C'est un chien qui remonte la rue, c'est une dame qui va chez sa couturière. Et c'est ce bonheur d'être dans un espace entouré de montagnes bleues, avec au fond la mer des Caraïbes, et si proche. Et je me souviens de cette enfance si lumineuse, je l'ai dit, et du fait qu'un jour, quelqu'un a perdu son chemin, devait aller tout droit vers le sud, et s'est arrêté devant notre maison pour demander sa route. Ma grand-mère a donné l'indication nécessaire, et au moment de partir, la dame a dit « Je ne comprends pas qu'on puisse vivre dans un trou pareil ». Et en effet, on n'a pas de télé, pas de radio, pas de journal, pas... on avait juste la vie nue, la vie telle qu'on pouvait la toucher, pas une vie virtuelle, pas une vie électronique, pas une vie par ricochet, mais la vie nue, c'est-à-dire c'était une époque où si, pour parler à quelqu'un, il fallait se présenter devant la personne, et il n'y avait aucun intermédiaire possible. Et pour rencontrer quelqu'un, pour... Enfin, tout se faisait et directement. Je ne sais pas si aujourd'hui on comprend ce que je veux dire. C'était de cette vie-là et qu'elle appelait un trou et qui...
Ce n'est pas tout à fait faux. Comme le terme en lui-même est historique. Vous avez la ville voisine qui est le Petit Trou de Nippe.
Oui,
un nom admirable, oui. Petit Trou de Nippe. Où existe une bibliothèque d'Annie La Ferrière.
C'est vrai.
Soit dit en passant, donc ce n'est plus un trou, déjà.
Oui, j'accepte cela, mais je dois dire que quand même, ça fait qu'il y a une partie de mon travail d'écrivain qui se situe dans cet espace agréable, serein, et où on a la possibilité de penser par soi-même, et mieux que penser, de rêver, c'est-à-dire c'est une pensée sans agitation, la rêverie. Et on la fait généralement des fois le matin au lever et on rêvasse, on voit des images et sans aucun but productif, sans vouloir en faire quelque chose. Aujourd'hui, je ne vais pas aller avoir l'air d'un vieux monsieur qui donne des leçons de notre temps. Mais je dois dire, maintenant, dès qu'on a une pensée, on se lève au milieu de la nuit pour aller écrire ça sur son blog. Et si j'avais un conseil, surtout, ne faites rien de vos pensées. Et elles ont un projet beaucoup plus profond qu'on le croit. Elles sont en train de nous structurer. Et sinon, vous allez alimenter l'espace commun de choses un peu pas inabouties. Et les pensées ne sont pas abouties, elles sont là pour faire de nous quelqu'un qui pourrait penser, qui ça sert à penser, et ça ne sert pas à faire penser. Donc, ce temps de rêverie-là se passait à Petit-Goave, pendant qu'à Port-au-Prince, quand j'ai rejoint ma mère, après mon enfance, les classes primaires, pour trouver une ville qui sentait la gasoline, les immondices, et le soir, le jasmin et le ylang-ylang. Une ville où le soir était complètement différent du jour, où le jour était la propriété de ma mère, et le soir, la propriété des tontons Macoutes, c'est-à-dire des sbires de Duvalier. Et une ville coupée en deux, spectaculaire, et bruyante, excitante, et où ma mère habitait près du cimetière et nous étions en face d'une maison où il y avait beaucoup de jeunes filles. Et je passais mon temps, au lieu de faire mes devoirs, à les espionner et de loin. Et j'ai construit un livre autour de cela parce que c'est là que j'ai compris quelque chose, une grande leçon de la vie et comment les gens... qu'on n'estime pas pourrait nous aider et en fait sont en train de faire quelque chose de plus important qu'on le croit. Et nous étions sous François Duvalier, c'était la grande dictature, et tous les enfants, surtout les fils, les garçons, étaient en danger, et moi-même encore plus, puisque mon père était en exil et contestait le régime de Duvalier de l'extérieur. Je portais son nom, et mon nom, Windsor Kléber La Ferrière, qu'on a changé en Dany La Ferrière. Et bien, j'étais là, j'observais ces filles dont ma mère disait qu'elles étaient presque des prostituées et dont j'avais une autre idée. Et ces filles-là étaient en train de révolutionner l'espace public haïtien, et parce que les filles, on les avait contraintes de rester à la maison, d'avoir une vie extrêmement pure. Et là, brusquement, la société avait changé complètement du jour au lendemain. Et on les lâchait dans la nature comme ça. C'est-à-dire, le mal avait pris la place du bien. Et là, on se retrouvait avec des jeunes filles qui n'étaient pas équipées pour faire face à ce pays où la dictature avait remplacé le droit. Mais ces filles, elles, étaient déjà dans la rue. Et à un moment donné, j'ai inventé ce personnage qui s'est retrouvé dans une situation politique difficile et qui devait prendre la décision de venir se réfugier chez lui ou d'aller se réfugier chez ses filles. Mais ma mère, parce qu'il s'agissait d'elle, était trop pure, trop bien pour savoir exactement ce qui se passait dans la ville. Ce qu'elle en savait n'était pas assez aiguisé. Et donc, le personnage, le narrateur, se trouvait en danger d'aller chez sa mère pour se cacher. Ma mère ne savait pas qu'il ne fallait pas. Elle connaissait deux ou trois personnes dans le gouvernement. Tout le monde en connaissait un pour les aider. Elle aurait été chez ce colonel dont je parle, qui serait venu le soir me prendre, parce que les relations de crime sont plus fortes que les relations d'amitié. Quelqu'un qui a tué avec vous, c'est un lien beaucoup plus fort que quelqu'un qui a eu une amitié. Et ma mère ne savait pas cela. Et c'était très grave, elle pouvait faire confiance à des gens qui étaient changés, qui étaient devenus des monstres, sans qu'on le sache. Le tissu social s'était complètement déchiré, il n'y avait aucun repère. Et ces filles, moi, j'avais, comme adolescent, très rapidement distingué la situation, puisque je fréquentais la rue, je connaissais, que si je voulais me sauver, c'était chez elles. Si vous avez à perdre une boîte, une aiguille, il faut la mettre, non dans une boîte de foin, parce qu'avec n'importe quel aimant, on peut la retrouver, mais dans une boîte d'aiguille. Il fallait que j'aille chez elles. Et donc, la question morale que ce livre posait, c'était, est-ce bien de rester bien dans une situation où vous pouvez perdre votre fils? Et ce que Sartre a posé avec les mains sales, c'est-à-dire, est-ce bien de rester dans cette sphère morale et quand la situation demande de changer, ce que les Haïtiens ont traduit par un proverbe qui dit que « bœuf qui gagne queue, pas traverser du feu ». Le bœuf qui a la longue queue ne doit pas traverser le feu. Quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas rester dans le bien totalement. Il faut comprendre qu'il y a une part où vous devez avoir une conscience de la réalité, sinon vous allez perdre votre enfant par ingénuité, ce qui est la pire des choses. Ce qui est la pire des choses, à faire l'ange, on peut faire la bête. C'est terrifiant pour un jeune homme qui a été élevé par sa grand-mère et je ne suis pas religieuse, et très, avec une grande piété, une grande connaissance de la vie, et par sa mère, ma mère était totalement pieuse, de découvrir que le bien n'est pas toujours bien dans certaines situations où le monstre règne. Enfin, ces deux situations vont poser un peu au cœur de mon travail d'écrivain et cette chose-là.
En ville. En même temps, là, on est très loin, parce que c'est quand même très inquiétant, c'est vrai, tout ce que vous nous racontez, Dany. Au départ, on est parti du Petit Goave, avec l'odeur du café, notamment, hein, qui est ce roman, qui a été mis d'ailleurs en bande dessinée pour les enfants, qui retrace votre enfance auprès de Dave, votre grand-mère, et puis tous ces romans qui ont suivi de l'adolescence, que j'appellerais, moi, je l'appelle un petit peu ça le cycle haïtien, on en reparlera peut-être, que vous avez écrit en majeure partie à Miami, d'ailleurs, hein. Et on est très loin d'un ouvrage dont le titre, je reviens un peu à ce qui s'est passé cet après-midi, une question qui a été posée, dont le titre est intéressant, c'est l'art presque perdu de ne rien faire, parce que vous avez beaucoup appris au Petit Goave sur la nature, la contemplation des fourmis, on voit des choses extraordinaires que vous nous racontez dans l'odeur du café, et puis les gens, les personnes, le notaire qui passe dans la rue, la voiture, le chien qui a été écrasé, qui voit toujours passer la voiture, etc., etc. Et on a évoqué quelques bordelais haïtiennes ou bordelais célèbres. Il en est un que vous connaissez certainement, qui est Paul Lafargue.
Bien sûr, qui a écrit.
Il est aussi d'origine bordelaise. Et c'est quand même l'auteur du Droit à la paresse, qui vous rejoint par beaucoup de côtés. et qui est en même temps le gendre de Marx. Il a écrit le droit à la paresse contre le droit au travail. Il avait épousé Laura Marx.
Mais c'est, voilà, c'est vrai.
Il faut prendre le temps de se retrouver, de se construire, comme vous disiez.
C'est vrai, et l'enfance est fondamentale dans cette structure-là. Et j'alterne cette agitation, comme je l'ai dit, avec cette immobilité. Et en fait, je ne fais pas un éloge ni de la paresse, ni de l'immobilité. Non, pas du tout, d'ailleurs. Les gens vraiment paresseux n'arrêtent pas de travailler.
Oui, parce que vous avez beaucoup... au moins 25 romans, quand même.
c'est tout simplement... Et est-ce que ça a un sens ? Et bien sûr, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons tout le temps. Et la vie est ainsi faite et elle est magnifique là-dessus. Et il faut une part de gaspillage, même de son énergie... Et il faut une part de production, les choses sont imbibées, les choses sont... Et au contraire, c'est tout le charme de cette affaire-là. Nous ne pouvons pas gagner sur tous les coups. Et c'est intéressant. Mais quand même, j'ai remarqué qu'il y a une grande agitation et qu'elle ne cesse de s'accélérer. Et bien sûr, dans ce livre-là, presque perdu de ne rien faire... Je signale quand même que dès qu'on commence à parler de que la vie va trop vite, c'est qu'on a vieilli. Dès qu'on commence à trouver les policiers trop jeunes, c'est qu'on a vieilli. Dès qu'on commence à trouver que le son est trop fort dans les discothèques, c'est qu'on a vieilli. Il y a, c'est vrai, un certain nombre de choses, mais quand même, je remarque quand même qu'il y a une sorte de quelque chose qui nous pousse vers le mur et qui fait que toutes les zones de la société sont touchées. L'espace de nuit, qui est un espace magnifique, qui a déjà été plombé par la lumière. Et le soir, je ne sais pas si on a déjà été à la campagne où il n'y a pas de lumière pour voir la voûte céleste. C'est quelque chose à montrer aux enfants, sinon ils vont les voir dans les musées. Et si on a vu cela... Dernièrement, j'étais en Haïti l'année dernière, j'ai été dans une petite ville, pas loin de Port-au-Prince, et il n'y avait pas de lumière, pas d'électricité. Et il m'a fallu une bonne dizaine de minutes pour voir que j'étais entouré de gens qui s'activaient dans leur vie naturelle. Parce que nous, dès qu'il n'y a pas de lumière, la vie s'arrête. Il suffit qu'il y ait une panne d'électricité, tout le monde se fige là où il se trouve. Et puis on attend. On essaie de savoir, est-ce qu'il y a de la lumière en face? Bon, s'il n'y a pas en face, ça veut dire que c'est tout le quartier, ce n'est pas chez moi. On voudrait que tout le monde soit dans l'obscurité ensemble. Et puis, on se fige. Et là, je voyais tout bouge autour de moi et j'étais au centre. J'étais le seul qui était figé. Les gens, ils sont dans cette lumière-là. Quand la lumière s'éloigne et que le jour apparaît, eh bien, ils continuent à vivre et mènent une vie de nuit. C'est-à-dire, les mouvements sont plus furtifs, les conversations se chuchotent un peu plus, les silences occupent une grande partie de la conversation, on lève la tête pour regarder la voûte du ciel, et puis, comme ça, on pénètre tout doucement dans la nuit. Et arrivé à Montréal, j'ai fait l'expérience de ne pas allumer la lumière au début, au moins, tout au début de la nuit. Et je me suis vu, j'ai eu l'impression que nous sommes en chasse de l'obscurité. Dès que la lumière baisse, nous allumons automatiquement, et même cette partie un peu interlope entre le jour qu'on disait autrefois, entre chien et loup, voyez, on dit plus ça parce que ça n'existe plus. Ouais. On est entre lumière du jour et lumière de l'électricité, et il n'y a plus entre chien et loup, il n'y a plus cette partie un peu, cette plate-bande, cette bande, et la pénombre, ce sont des mots qu'on ne dit plus parce qu'immédiatement, on la chasse. Et ce sont des choses qui sont naturelles, qui permettent précisément au cœur, au corps, aux yeux de s'acclimater et de trouver les choses dans leur lumière naturelle. Et une bouteille, la vie de nuit, l'espace de nuit, quelque chose un chat qui furtivement et traverse une pièce dans une pénombre, sous la lumière ou sous la lumière du jour, ce n'est pas le même chat, dirait Borges. Ce n'est pas le même chat. Le chat de midi n'est pas le chat de minuit. D'ailleurs, la nuit, les chats sont gris. On dit plus ça, puisque les chats sont toujours très éclairés. Donc, il y a des choses qui se perdent. L'espace de nuit, qui est un espace qui a duré très longtemps dans l'histoire humaine, cet espace qui change le corps, littéralement, et l'esprit des gens. Vous savez, le premier groupe humain à qui on a volé la nuit, c'est les femmes. Et c'est pourquoi, dès que j'arrive dans une ville, je sais que le niveau de civilisation de la ville, si je vois les femmes dehors la nuit, seules. Et en Haïti, par exemple, pendant très longtemps, les femmes, ma sœur n'a jamais été dehors la nuit, seule. Elle n'avait aucune idée de ce plaisir, cette sensation, cette jouissance de s'asseoir tranquillement à la table d'un café et de prendre un café avec un ami le soir et de rentrer chez soi après. Ces gestes, en apparence banals, lui étaient interdits. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'étais allé à Port-au-Prince et il était 2h du matin et j'entendais des rires. Et je me suis retourné, il y avait 3 ou 4 filles qui étaient assises sur le capot d'une voiture et qui riaient en pleine nuit. Je me suis dit, bon, la situation a évolué, il y a quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai relayé cette information à Montréal, à la télévision, en disant cette phrase qu'on ne dit plus, qu'on n'en dit plus jamais, j'ai entendu une fois d'ailleurs à la télévision, le niveau monte. Parce qu'on dit toujours le niveau baisse. Le niveau monte. C'était deux jeunes professeurs qui étaient à l'émission de Pivot, qui avaient publié un livre sur l'éducation en France, il y a peut-être 40 ans, et le titre, c'était « Le niveau monte ». C'est extraordinaire. Alors, le niveau de sécurité, le niveau de rire, le volume de rire des jeunes filles dans la nuit porto-princienne, et monte. Pour moi, c'est une grande nouvelle, et ça n'a rien à voir avec les chiffres, avec les informations pétardantes, avec tout ce qui est spectaculaire et tend naturellement à nous désespérer.
Et là, Dany, dans cette grande Amérique, je me souviens de la réflexion d'Anthony Phelps à Rochefort, quand le journaliste lui avait dit « Mais que pensez-vous, vous, Haïtiens, des Américains ?» Et Anthony lui avait répondu « Mais l'Américain, c'est moi, monsieur. » Oui. Effectivement. Alors, dans ce grand espace américain, ce matin du monde, c'est Borges, le matin du monde. Alors, quel penseur. Moi, il y a une chose qui m'intrigue un peu. La nuit porto-princienne, la nuit montréalaise et Miami.
Miami
12 ans quand même dans votre vie.
Oui, j'ai pas compris ça. Miami,
moi non plus, je comprends pas.
Miami, il faut dire aussi la raison.
C'est déjà vers le sud, comme dit.
La raison, Miami, bien sûr, ce qu'elle est bien, Miami est un berceau pour les gens qui viennent du sud, de l'Amérique latine, de la Caraïbe, et un tombeau et un cercueil pour les gens qui viennent du nord, c'est-à-dire les Québécois, les Canadiens, nous y allons. Et quand nous ne pouvons plus avec le froid, nous descendons à Miami et nous y allons pour mourir. C'est un cercueil. Et de toute façon, et cela se fait très simplement, d'ailleurs, en Amérique du Nord. Et les parents sont toujours en roulotte depuis des années et les enfants vont en Europe. À un moment donné, quelqu'un a voulu accompagner les parents. Généralement, la personne a 50 ans. Et puis à garder la houlotte et à changer de continent. Donc, c'est signe. Mais nous autres du Sud, nous montons vers le Nord, à l'âge où ceux du Nord descendent vers le Sud. C'est tout simple. Et les Québécois ou les Haïtiens, les Québécois, c'est le groupement humain, le peuple que je connais le mieux en Amérique du Nord, et peut-être même autant que les Haïtiens, puisque j'y ai passé 2 fois plus de temps au Québec qu'en Haïti. Les Québécois commencent leur vie par adorer l'hiver et finissent par le détester. Les Haïtiens détestent l'hiver au premier regard, comme on dit, d'un coup de foudre. Et à la fin, finissent par l'adopter et l'accepter. Et donc, on fait les choses de façon... Alors, Miami, la raison pour laquelle je m'étais rendu à Miami, c'était parce que je ne pouvais pas rester à Montréal à cause du froid qui m'avait humilié. Et là, je suis descendu à Miami parce que je ne pouvais pas aller à Port-au-Prince. Vous savez, c'est toujours la même raison, c'est les enfants. Les enfants...
Trois filles.
Oui, mes trois filles, je crois me le voir lire. Et les enfants, donc je suis allé à Miami. Et Miami m'a servi comme un bureau, une chambre pour écrire. J'ai passé 12 ans, j'ai écrit 10 livres à Miami. Et j'ai eu, en écrivant le dernier livre, le Cri des oiseaux fous, qui raconte ma dernière nuit à Port-au-Prince, j'ai dit à ma femme, si on laisse les enfants terminer le high school et l'école primaire, si on y allait dans 2 ou 3 ans, et est-ce que ça irait si on rentre à Montréal? Et c'est pas bon, moi, dans les rapports entre époux, il faut jamais donner cette possibilité-là. Et parce que la réponse était, et si on y allait tout de suite? Et le lendemain, on a mis la maison en vente. Donc ça veut dire que le séjour de Miami était terminé. C'était un séjour studieux où j'ai travaillé vraiment matin et soir.
Et vous êtes sorti épuisé. Et puis c'est là que vous écrivez, je suis fatigué.
C'est ça, tout simplement. Je suis sorti épuisé parce que au terme de ce séjour d'écriture, j'ai eu l'idée d'écrire un livre sur cette dernière nuit, Le Cri des oiseaux fous, et qui est aussi sur l'exil de mon père. Et j'avais les dos, les reins brisés, et je ne savais pas pourquoi. Je pensais que c'était parce que j'étais resté assis trop longtemps, 12 ans de chaise. Et j'ai dit aux jeunes écrivains, si vous voulez écrire, et premier conseil, testez vos fesses. Parce que c'est un métier où l'on s'assoit, comme celui de couturière ou de cordonnier. Ce sont des métiers assis. Ce n'est pas fait pour les gens qui veulent toujours se lever. Les gens qui vont voir le monde ne décrivent pas bien le monde. Il faut avoir un recul. C'est les gens qui le rêvent et qui le décrivent. Donc, je suis sorti complètement les reins brisés et par cette expérience de 10 livres. Et je suis rentré à Montréal et j'avais l'impression d'être vidé. Et j'ai écrit un livre, comme vous avez dit, qui s'appelle « Je suis fatigué ». Et j'étais vraiment fatigué. Fatigué de me baigner dans cette mer d'encre, fatigué de répéter sans cesse que je ne suis pas un écrivain haïtien, je suis un haïtien et un écrivain, comme un médecin n'est pas un médecin haïtien, ce qui veut dire qu'il n'est pas autorisé seulement à soigner des malades haïtiens, il est médecin et haïtien. Donc j'étais fatigué de cette injure géographique qui fait qu'on assimile l'écrivain uniquement à son espace, à son lieu de naissance, ce qui a un rapport, bien sûr.
Vous avez même dit beaucoup plus fort que ça. On nous emmerde depuis tant d'années, 30 ans, avec l'identité. On a l'impression qu'on est aux mains d'une bande de psychologues, de psychanalystes et de psychopathes.
Oui, mais là, c'est pour la question d'identité, j'y reviendrai. Mais c'est pour la question de dès qu'un écrivain vient d'un pays du tiers-monde, il est assimilé à son espace et réduit à son espace. Et il y a des. Migoué est un écrivain, et Jacques Roumain est un écrivain haïtien. Et Günter Grass est un écrivain, Senghor est un écrivain sénégalais ou un écrivain africain, un poète africain. Et André Gide est un écrivain, et Aimé Césaire est un poète martiniquais. C'est-à-dire, l'espace est. Alors que ce qui est faux tout à fait, vous savez, les gens qui viennent des pays précisément comme Haïti, la Martinique, le Sénégal, nous lisons beaucoup plus d'écrivains internationaux. Un Français intellectuel peut lire seulement la littérature française et être très bien. Tu imagines? Déjà, mon confrère et collègue de bureau, Montesquieu, c'est déjà intéressant de le lire. On peut en avoir pour toute une vie. Mais nous autres, nous sommes comme les équipes qui participent au championnat mondial de football. Puisque Haïti ne participe pas, donc nous n'avons aucun fanatisme. Nous regardons le match, et puis si nous aimons l'équipe au début, si nous ne l'aimons pas, nous changeons d'équipe avant la fin du match. Alors que quand la France joue contre l'Allemagne, aucun Français n'est pour l'Allemagne, même si l'Allemagne joue bien. Donc s'il y a quelqu'un d'ouvert, d'universel, c'est précisément quand on vient d'espace dit petit, parce qu'au contraire, si vous voulez trouver des érudits, c'est dans les endroits où les gens n'ont aucun fanatisme personnel et qui ils peuvent précisément lire, je ne sais pas. Moi, j'avais 15-16 ans, je lisais. D'abord, on lit les livres qu'on trouve. Quand on n'a pas de bibliothèque, c'est comme ça. On espère que les livres ont encore des jambes pour venir jusqu'à vous. Moi, je pensais que les écrivains que je lisais étaient des gens du quartier, que Mishima était un peu à trois rues d'ici, que les gens écrivaient dans le coin, ils avaient des noms étrangers, mais en fait, ils étaient tous haïtiens et tous de Petits Gouaves. Je voyais les livres arriver. On n'avait pas beaucoup de livres, on les trouvait partout. Les livres vraiment intéressants, on les trouve sous les draps dans la grande armoire. Ils sont écrits par un certain Sade, ou je ne sais pas. Les livres, mais il faut toujours les replacer au bon endroit, à un mouvement près. À un mouvement près, donc il faut faire la marque avant de les prendre. Il faut même faire de la poussière artificielle dans certains livres qui ne sont jamais touchés. Vous savez, le livre occupe un espace dans la maison dont on n'a aucune idée. Au point que je me suis dit, si c'est pas eux qui nous lisent, Ils prennent leur place eux-mêmes, ils nous regardent, ils nous voient, et la nuit, ils s'engueulent entre eux. Vous n'êtes jamais entré dans une bibliothèque la nuit, votre bibliothèque personnelle, parce que vous avez mal placé Malraux à côté de Céline, l'engueulade. Donc, ils ont une vie particulière, ils ont des émotions. Vous n'avez jamais vu un livre que vous voulez chercher, vous ne le trouvez pas, vous croyez qu'il n'est pas là? Il est là, mais il se cache, parce qu'il boude. Ça fait 6 ans que vous ne l'avez pas ouvert. Les livres nous boudent et les livres demandent à être entre les mains de bons lecteurs. Et votre bon livre, eh bien, il suffit de faire rentrer quelqu'un, il y va tout de suite. Ah, tu me prêtes ça? Donc ça veut dire, c'est ça, un bon livre, c'est un livre qui se retrouve entre les mains d'un bon lecteur. Parce que le mauvais lecteur n'aime pas le bon livre, parce que le bon livre exige une capacité d'attention, pas forcément difficile ou intellectuelle, mais une capacité, une générosité. Une générosité aussi, le mauvais lecteur trop pressé le met de côté. Alors il faut le prendre. Alors tout cela pour dire que la bibliothèque fonde l'écrivain. Peut-être même au plus haut point que l'espace, où est l'espace géographique. Si vous voulez connaître un écrivain, va regarder sa bibliothèque. J'ai toujours été étonné de voir les gens faire des biographies d'écrivains sans faire une description attentive de sa bibliothèque, de ce qu'il lit. Parce que d'abord, les gens nous trompent sur la bibliothèque. Moi-même, je le faisais. Si vous avez, ben oui, vous placez au salon tous les livres que vous ne voulez pas. Parce que les livres sont faits pour être volés. Alors, avec votre consentement encore. Ah, vous me le prêtez celui-là?
Oui, absolument. On dit bien en Haïti, livre prêté, livre perdu.
C'est ça. Alors, vous placez les livres que vous n'avez pas besoin, vous les placez au salon pour que tout le monde puisse les prendre. Vous placez les livres qui sont amusants dans les toilettes et les bandes dessinées et autres. Vous placez sous le lit les livres que vous ne voulez pas que les enfants trouvent, mais qu'ils trouvent et que vous savez très bien qu'ils vont les trouver. Vous placez les livres dans les armoires. Enfin, vous placez sur la table de chevet, naturellement, tout pousse.
Et dites-moi, Dany, c'est à ce moment-là où vous étiez très fatigué, enfin, si on en croit la préface, parce que je viens à celui que vous allez signer ce soir, « Mythologies américaines ». Et c'est à ce moment-là, si on en croit Charles Danzig, qu'il vous dit, mais vous ne voulez plus écrire, soit, mais pourquoi ne pas reprendre les romans, les premiers romans. Et en même temps, il y a donc 2 romans de...
Oui, mais ce n'était pas exactement ce qui s'est passé.
Voilà, c'est ça, dites-moi.
Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je reçois un coup de téléphone de Dublin, quelqu'un que je ne connais pas, et c'est ça la littérature. La littérature, ouais. C'est écrire des livres qui vous représentent et qui vous font de nouveaux amis. Et la personne me dit, écoutez, on va fêter le 100e anniversaire de Joyce, et qu'on voudrait que vous soyez, que vous veniez à Dublin pour faire une conférence sur Joyce, participer à une table ronde. J'ai dit, mais j'ai jamais lu Joyce. Alors, il a eu un silence long. Finalement, il a dit, venez quand même, vous serez celui qui ne l'a pas lu. Alors, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui vous veut. Et donc, je suis allé et j'ai fait ma conférence sur le fait de n'avoir pas lu Joyce. Vous savez, à Dublin, ils connaissent un rayon sur Joyce. Tout est Joyce, là. Tout est Joyce. Et Charles Danzig était là. Et je parlais de tout ce qu'on peut savoir sur Joyce sans l'avoir lu.
Brillamment, je crois.
Et ça, c'est, crois ça, c'est l'opinion.
C'est ce qu'il dit là-dedans.
Le commentaire de Danzig. Et là, naturellement... Et Danzig m'a dit, ouais, vous écrivez, est-ce que... J'ai dit non, je n'écris plus, je viens de publier un livre qui s'appelle « Je suis fatigué ». Je n'écris plus. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et j'ai dit, mais je fais quelque chose que j'ai appris à faire à Montréal. Il me dit, quoi? J'ai dit, mais je fais du tricot littéraire. C'est-à-dire, les vieilles dames font du tricot en hiver pour leurs petits-enfants et autres. Et moi, je reprends mes vieux livres et je les réécris. Et il me dit, pourquoi? J'ai dit, mais parce que quand je les avais écrits, je l'avais fait très vite, pensant que je pouvais mourir d'un jour à l'autre. Je viens quand même d'un pays avec une espérance de vie assez faible. Et donc, ma devise, c'était mal, mais vite. Donc, j'ai écrit ces livres très rapidement. Et maintenant que j'ai appris par mon médecin qu'il y avait possibilité que j'aille en prolongation. Et donc, je reprends les livres et puis je les fais comme je pourrais les faire. Et voilà.
Cher Dany, pas si mal que ça tout de même, puisque vous êtes traduit en 12 langues, notamment le premier. Mais vous n'aimez pas trop qu'on en parle, parce que beaucoup de gens ne connaissent que le titre.
Et ah non, non, maintenant ça a changé ça un petit peu. Ça a changé. Ah, oh, les gens, oui, les gens continuent à ne connaître que le titre, bien sûr. Évidemment. Mais je ne suis pas seul d'être dans sa situation où l'on connaît que le titre d'un livre. Mais c'est déjà quelque chose.
Le livre avait fait beaucoup de bruit. À l'époque, j'étais en Haïti, je me souviens, parmi l'élite, comme elle se qualifie elle-même, qui avait été très surprise du titre, évidemment.
Mais les Haïtiens à Montréal aussi avaient détesté.
Et alors, vous avez des pages très amusantes où vous avez les réactions à la page 200, je crois, du second roman, cette grenade dans la main du jeune homme, et où on voit notamment cette critique espagnole qui vous dit « J'ai changé un mot à ton titre. Est-ce que tu veux savoir le résultat ?» Et elle vous dit « Comment faire l'amour à un nègre sans le fatiguer, au lieu de se fatiguer ?»
Oui, bien sûr.
Alors, il y a aussi ce marchand de lingerie qui veut emprunter votre titre, lingerie fine, etc.
Pour mettre « Comment faire l'amour ?» Oui.
Alors,
oui.
Ce sont ces passages savoureux qu'on trouve sur la réception de cet ouvrage.
Ah oui, savoureux quand on en parle, mais dans la réalité...
Oui, c'était parfois... Vous recevez un verre de vin dans la figure aussi, à un moment, d'une jeune fille.
Vous savez, les gens croient toujours dans la littérature. Et on le voit, mais ils le manifestent quand ils sont fâchés plus tôt. Mais c'est quoi dans la littérature de reprocher quoi que ce soit à un écrivain? Il est de l'ordre du rêve, de l'imaginaire. Et quand j'ai écrit « Comment faire l'amour avec une existence fatiguée » dans les salons du livre, les gens se présentaient en couple mixte, généralement un noir et une blanche, me demandant « Écoutez, ce que vous avez dit est un peu trop généralisé, tout ça. Mais ma femme et moi, j'ai dit, écoutez, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre femme. Laissez-moi tranquille. J'ai écrit un livre. Je suis un marchand, je mets mon livre à la vente. Vous le voulez, vous le prenez. Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas vous connaître. Enfin, et donc les gens, moi je dis ça, que c'est une croyance dans la littérature et que de prendre ça et tant à cœur quelque chose d'aussi artificiel que la littérature, qui est faite avec des mots, des lettres, l'alphabet, une grammaire rigoureuse, arriver à toucher les gens avec ça, à distance comme ça, je trouve que... Et ça fait honneur et beaucoup plus au lecteur qu'à l'écrivain. Et les gens, je dis toujours aux gens qui disent « moi, je ne lis pas », j'ai dit « les gens qui ne lisent pas et les gens qui ne savent même pas lire se retrouvent plus souvent dans les livres que les gens qui savent lire ». Parce que quand vous mettez un lecteur ou un intellectuel dans un livre, et ce n'est pas... Et c'est comme si... je sais pas, de l'inceste, mais il y a quelque chose de très proche... Et littérature à l'intérieur de littérature qui fait que ce n'est pas assez vivant. Quand vous mettez quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la lecture, à la littérature dans un livre, cela prend vie immédiatement. Et on le voit, les littératures où l'on finit, je dis ça alors que c'est bourré d'écrivains mes livres, mais les littératures qui finissent par mettre en scène que des écrivains et s'étiolent. Et parce que les gens qui n'aiment pas lire sont plus nombreux. Et ils ont une poésie intérieure exceptionnellement profonde. Et c'est cette poésie-là qu'on veut leur voler pour les mettre dans les livres. Et espérer qu'un jour, ils sauront lire pour les retrouver.
Donc pour moi... Et l'humour aussi, Dany. Tout de même, l'humour est toujours présent dans vos ouvrages. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est vrai qu'il y a des réflexions très profondes, parfois dramatiques, sur des situations exceptionnelles, Mais d'une règle générale, vous aimez la vie, vous le faites savoir et vous dites pourquoi et pourquoi il faut l'aimer.
Mais je dis comment je l'aime. Je dis
et comment vous l'aimez, mais c'est déjà bien.
Comment je l'aime, dans le sens que, pour moi, c'est tout simple. Hein. On est, on vit et on meurt. Alors, entre-temps, pas besoin d'en faire trop. Et cet espace, que ce soit 40 ans, que ce soit 100 ans, que ce soit 30 ans, et c'est le nôtre. Et nous sommes responsables de cet espace-temps. Chaque individu, qu'il soit dans la misère, dans la richesse, qu'il soit en prison ou en pleine liberté, nous sommes responsables et notre vie dépend totalement de nous. Et peut-être physiquement, ça pourrait ne pas dépendre de nous si nous ne contrôlons pas nos mouvements et nous sommes en prison, mettons, ou nos gestes, nos réflexes, nous sommes handicapés, nous ne pouvons pas bouger. Et tout ça, mais quelque part, tout le temps, notre vie est à nous et dépend de nous. C'est ça que j'ai appris de ma grand-mère, cette puissance de la vie, cette puissance intérieure, cette sourde joie qui nous habite et qui voudrait bien sortir, qui voudrait bien nous illuminer. Je l'ai vu d'ailleurs pour les gens qui sont un peu séducteurs. Et je croyais que c'était quelque chose qui est lié avec une manière d'être, un style. Mais en fait, non, pas du tout. Je crois que nous sommes des animaux étranges. C'est une chaleur qui se dégage, c'est une énergie. Et comme les gens nous devons nous nourrir de ces énergies pour continuer à vivre. Donc, dès que nous voyons cette énergie, les gens sont en appétit et s'approchent de ceux qui l'ont. Et cette énergie-là, elle sort de n'importe où, de n'importe où, du type le plus handicapé, le plus... Elle sort même d'un monstre, même d'un assassin. Cette énergie, elle est irrésistible. C'est parce que nous sommes, je pense, peut-être même Platon, dans son plus beau... Enfin, plus beau... Depuis que je suis académicien, je me prends pour un critique. Je donne des... rappelez-moi ce texte de Platon...
Le banquet.
Le banquet. Ce magnifique banquet... Et précisément, là, quand il parle des sphères qui se mettent ensemble, nous en sommes, nous, à homme-femme presque, un peu plus, mais lui, c'était très ouvert.
La séduction, Denis, elle est très présente, là. Hein?
Oui, la séduction est très présente, mais j'essaie de dire
qu'elle
n'est pas dans une stratégie.
Oui.
Qu'elle n'est pas dans une stratégie. Ce n'est pas un piège quand... tend à l'autre. Je dirais même plus que c'est l'autre qui nous tend un piège, parce que c'est lui qui est en appétit de l'énergie, et cette énergie-là est incontrôlable.
L'une des misses vous le montre, d'ailleurs.
Voilà.
Mais elle est japonaise. Et vous devenez un écrivain japonais.
Bien sûr. Bien sûr.
C'est extraordinaire. Mais
ça, c'était mon éditeur qui m'avait parlé de cette histoire d'identité dont vous parliez tout à l'heure, et qui m'avait demandé qu'est-ce que vous avez à dire sur la question d'identité. Je réfléchis, je ne vais pas dire sur la question d'identité, c'est le mot le plus mal employé, et je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas. Autrefois, il y a à peine 40 ans, dès qu'on disait identité, on parlait de la carte d'identité. c'était à cela seulement, et c'était la seule définition la plus juste, une carte d'identité, et en Haïti, on n'en avait pas. Moi, je me souviens, oui. Je n'ai jamais vu une carte d'identité il y a peut-être 30 ans.
Oui. On avait un baptistère.
Oui, et à peine.
Et hein. Encore, oui.
Et à peine. Parce que les papiers, Haïti est très fort sur les papiers, et les gens, étonnamment, qui sont les plus forts sur les papiers officiels, ce sont les gens les moins riches, ce sont les paysans d'abord, parce qu'ils doivent défendre leur terre, ils doivent s'assurer que la terre est à eux, qu'ils ont. Ils doivent tout le temps en train de renouveler. Je me souviens, quand j'étais à Petit-Gouave, j'habitais presque en face du parquet, et c'était toujours plein de paysans. C'est les gens les plus pauvres qui doivent toujours défendre le peu qu'ils ont. C'est eux qui font confiance à l'État, tout en sachant que l'État est corrompu.
Qu'il n'y a pas de cadastre,
oui.
Que quand on a besoin d'un arpenteur, on mesure
ses pas. Mais ils n'ont que ça. Mais ils n'ont
que ça. Avant d'utiliser, etc.
Mais ils n'ont que ça.
Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve aussi des papiers très anciens, datant même parfois de la colonie, dans des petites cases, dans la campagne.
Toujours.
Qui ont été conservés bien précieusement.
La mémoire, et c'est pour ça, par des gens qui ne savent pas lire, mais qui savent qu'ils ont ces papiers-là. Mais à New York, il y a eu quand même une corruption de l'histoire du papier, parce qu'il y a un Haïtien qui a donné tout son argent, tout le temps, enfin une partie de son salaire, et pour avoir une assurance vie. C'est ainsi qu'on appelle ça. Il y a beaucoup de gens qui font des démarches, des démarcheurs dans les quartiers pauvres pour vendre des assurances-vie. Et à un moment donné, il voulait rentrer en Haïti. Naturellement, il a voulu avoir son argent. On lui a dit qu'il meure, c'est une assurance-vie étrange. Hein. Et là, lui il a dit, mais non, je ne peux pas mourir, puisque précisément, j'ai besoin de cet argent pour vivre. Et finalement, ils se sont établis sur les règles élémentaires. Il a voulu voir les règles. La règle dit, il faut, pour avoir l'argent, votre acte de naissance, qui dit que c'est vous, et votre acte de décès. Ah oui, il a dit, c'est pas un problème.
Ça va être dur.
Non, pas du tout. Il a dit, bon, jeudi prochain. Je vous apporte un acte.
Ah bon.
Donc, on a un surplus de papier. C'est pour ça que j'ai dit, Haïti n'a pas de problème d'identité. Au contraire, on a un surplus d'identité.
Oui.
Et on pourrait même en vendre à des pays qui sont en crise d'identité constamment.
Oui, mais ça existe.
Et plus le pays est riche, j'ai remarqué, plus il parle d'identité.
Oui.
Plus le pays est complètement autonome, plus il parle d'identité.
Et parfois, ça devient même un gros mot. Actuellement, on y est presque. Quand on parle d'identitaire en France, ça veut dire beaucoup de choses.
On a un vocabulaire, qui est...
Les mots vivent aussi.
Dévoyé, mais quand je suis arrivé, par exemple, l'endroit où l'on parle beaucoup plus de la mort de la langue française, c'est en France où il y a le plus grand nombre de gens qui parlent français. J'ai jamais entendu ça. Moi, au Québec, on se bat et pour la langue française, et en Haïti, on exporte la langue française. Si vous allez à New York, si vous entendez parler français dans un taxi, c'est un chauffeur de taxi haïtien.
Absolument.
Et la radio, c'est la radio haïtienne, c'est en français. Oui. Et il y en a 12 comme ça. Pas de stations dont ils sont propriétaires, mais ils achètent l'heure. Donc si vous allez à Miami, vous entendez parler français, c'est parce qu'il y a près de 15 stations de radio haïtiennes qui font en créole et en français.
Et dans tous les hôtels, vous
aux États-Unis, quelqu'un... nous sommes en train de coloniser les États-Unis en français.
Ouais.
Et jamais j'ai entendu le mot la mort du français en Haïti. Personne n'est assez oisif pour faire une conférence sur la mort du français. C'est le pays où l'on ne meurt pas. C'est dans ces pays-là qu'on parle de la mort à tort et à travers. En Haïti, on connaît des tremblements de terre, des emprisonnements, des exils, des inondations. La mort est toujours présente. Alors, on ne fait pas ce genre de conversation oiseuse sur la mort de la langue. Ou la mort n'est pas une chose abstraite.
C'est
une chose concrète, physique et réelle.
Ce que vous dites, maintenant que vous êtes immortel, pas moi, vous dites, la langue est immortel, mais pas moi.
Ça se dit pas en Haïti, parce que un vieux monsieur qui m'a dit, vous êtes immortel, j'ai dit, non, écoutez, et il dit, comment ça, c'est pas vrai? J'ai dit, non, d'une certaine manière, c'est-à-dire, d'académicien en académicien, on fait le fil rouge de la langue française. Il dit, fil rouge, de quoi? Est-ce que tu peux pas mourir ou non? J'ai dit, je peux mourir. Il dit, vous n'êtes pas immortel. Parce que les Haïtiens ne blaguent pas avec ces questions-là. Ce sont des questions qui sont au cœur de notre identité. L'immortalité. Donc, l'immortalité. Alors, donc, j'ai dû dire que, vous savez, en France...
Du moment qu'on dit parler français, de toute manière, il y a une belle enveloppe en Haïti.
C'est les fleurs de tapis.
Dis-nous un petit mot, Dany, parce que le temps avance, malheureusement, on parlerait des heures et des heures.
Mais on n'avance pas, on cause.
On cause. Comment dire, en créole, un petit creuset dans un bâtonnel.
Oui.
Voilà. Et donc, là, dans ce livre que vous allez signer, il y a une très belle petite nouvelle au début, qui est de 2015, donc c'est très récent, sur Truman Capote au Parc Hotel.
Oui.
Et là, on se trouve, c'est l'Olofsson, en fait.
Non, c'est le Parc Hotel.
Mais il y a Graham Greene.
Graham
Greene était à l'Olofsson.
Oui,
il y a
une robe
de Pardine, etc.
Non, il y a une partie de la nouvelle qui se passe à l'Olofsson aussi.
Ils entrent à l'Olofsson, voilà, c'est ça, oui.
Mais il était au Parc Hotel, vraiment.
Au Parc
Hotel,
oui.
Il est venu, c'est là qu'il a écrit ce très petit livre qui s'appelle « La maison aux fleurs ». Et oui, c'est...
Et alors, Aublin Joli-Cœur, ça c'est un personnage haïtien quand même, dont on peut dire un petit mot rapide, qu'on voit en photo dans le Conseil national de gouvernement.
Mais lui, il est vrai, non seulement informé, mais il vient avec des images.
Je crois que c'est un numéro un peu exceptionnel qui est sorti à la chute de Duvalier.
Okay.
On le voit là, au deuxième rang.
Oui, non, je l'ai
des officiels absolument. Sur les marches du palais. Alors dites-nous un petit mot d'Aublin, quand même.
Aublin Jolicoeur, c'est quelqu'un que je connais bien et que j'ai. D'ailleurs, il m'a dit une très jolie chose de mon père, à propos de mon père. Il m'a dit, et votre père, alors je dois très rapidement vous dire qu'il vient du sud d'Haïti, il a été adopté par une famille à Port-au-Prince. Et mon père était à 24 ans, maire de Port-au-Prince, le plus jeune de l'histoire, et fut un enfant adopté, hein, qui a été sous-ministre. Ensuite, il est allé comme consul à Gênes et ambassadeur à Buenos Aires, en Argentine, et tout cela avant 30 ans. Et donc, c'était ce qui fait que ma mère, dès que, même si je travaillais bien à l'école, disait non seulement ton père faisait ça, et en plus, il travaillait pour la collectivité. Parce qu'à 17 ans, mon père était secrétaire général du syndicat des tanneurs, qui était le plus puissant syndicat, mais il ne faisait que copier ce qu'on lui disait, et c'était son travail de... Alors, mon père était à ce colloque, et Aublin Jolicoeur, comme bon haïtien, et, c'est-à-dire fils de Français, et commençait son truc en disant « Je ne sais pas, mais... » Et mon père a dit « Quand on ne sait pas, on se tait. » Il m'a dit depuis, je ne dis plus jamais cette phrase, je ne commence plus jamais avec cette fausse modestie en disant je ne sais pas, mais. Donc c'est Aublin Jolicoeur, et j'arrive à Port-au-Prince après la chute de Duvalier, en 86, et il est à l'aéroport pour faire quelque chose d'autre. Il me voit avec un écrivain haïtien, Jean-Claude Charles, très, très important, oui. Et il nous dit mais qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit on vient d'arriver. Il m'a dit mais prenez ma voiture. Et j'ai dit, mais oui, mais non, comment on vous la donne ce soir ou bien. Il m'a dit, non, non, quand vous voulez. J'ai dit, bon, OK, non, on va dans le Nord. Il dit, ben allez-y avec. Ce qui fait, d'abord, vous voyez le type, prenez ma voiture avec chauffeur, et puis faites ce que vous voulez avec, et puis vous rapportez avant de partir. Et puis, 15 jours. Et il connaît mon père un peu, mais il me connaît à peine. Et en même temps, me voilà en train de me balader dans Haïti à feu et à flamme, où tout le monde veut tuer tout le monde dans une voiture officielle. Mais j'étais tellement naïf que je n'ai pas vu que c'était une voiture officielle et que Aublin Jolicoeur s'était comme débarrassé de ce truc. On était avec chauffeur en plus, qui était mal vu. Donc, et voilà, c'est Aublin Jolicoeur.
Habillé en blanc, toujours
habillé en blanc. Il était un peu un personnage extravagant, si extravagant qu'il s'est retrouvé dans le livre Les Comédiens de Graham Greene, sous le nom de Petit Pierre, et si extravagant qu'il était le personnage d'au moins une trentaine de romans à travers le monde.
Chroniqueur mondain
pendant 60 ans, il écrivait la même chronique avec les mêmes adjectifs.
Artiste peintre.
Oui, et galériste, avec les mêmes adjectifs. Toutes les femmes, les femmes splendides avaient toujours une fille rougissante, belle, magnifique. Et il allait à l'aéroport chaque jour et il transcrivait.
Polyglotte.
Dans sa chronique, je pense que c'était pas aujourd'hui, hier, et c'était au fil des jours. Au fil des jours, 60 ans d'au fil des jours, émaillé de latin et de grec. De citations qui prenaient la moitié de l'article.
De dithyrambes, invraisemblables.
Et toutes les femmes étaient splendides. Et moi, à Petit Gouave, je lisais religieusement ça. C'était ma fenêtre sur le monde. Je me disais, bon Dieu, un jour, je croiserai une des filles dont parle Aublin Jolicoeur. Eh bien, ces femmes, ces filles, ces hommes étaient des gens qui avaient accepté de venir soutenir d'une certaine manière le régime sanglant de Duvalier, et Aublin Jolicoeur les recevait et les amenait à l'hôtel Olofsson, qui est un hôtel magnifique, qui est toujours là.
Un gingerbread d'architecture.
Et qui les recevait, les amenait à danser. Et Aublin Jolicoeur, on ne savait pas à l'époque, c'était un feu follet. C'était quelque chose qui surnageait tout cela. Et un jour comme ça, retour d'un colloque à l'étranger, Aublin Jolicoeur apporte au journal où je travaillais un article rageur contre le gouvernement, qui était encore là. Plus terrifiant que les articles qu'on écrivait nous-mêmes, nous qui étions contre Duvalier. Moi, j'étais abasourdi.
Dans ce journal, le
petit oui, c'est dans ce journal que j'écrivais. Et nous, on était impressionnés. On se disait naturellement que c'est pas vrai, c'est un coup, c'est une provocation du gouvernement, c'est un truc, ce type de peut-être qu'un espion. On ne peut pas être toléré à ce point et écrire, changer sa veste sans que ce soit quelque chose. Eh bien, ce n'était pas vrai. Il était tout à fait sincère. Il est un personnage de roman, en fait. Cet homme toujours habillé de blanc.
Il avait, paraît-il, dit la légende, dans sa canne une épée. Et on voit beaucoup. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit beaucoup de personnages de ce type en Haïti, et on les retrouve dans vos romans. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que vous traversez l'Amérique dans le second, et vous arrivez à trouver des personnages aussi qui ressemblent un peu à ça.
Eh bien, le monde est gorgé.
Il y a aussi la vision que vous avez du personnage qui est intéressante.
Mais c'est comme ça aussi. Un jour, j'ai remarqué, je me suis dit, pourquoi les personnages, pourquoi Henry Miller connaît tous les gens intéressants?
Oui.
Quand on lit Henry Miller, on se dit, c'est pas possible. Chaque fois qu'il y a quelqu'un d'intéressant, chaque fois. Et jusqu'au moment où j'ai compris, c'était que c'est Henry Miller qui les rendait intéressants. C'est sa générosité, c'est son style, c'est son regard. Il donne l'impression, on a envie de connaître tous les personnages de Miller qui sont ses amis, parce que Miller les a rendus intéressants. Et je crois que moi, je ne pense pas, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne soit pas intéressant.
Bravo.